celui par rapport auquel nous avons commencé une petite série, mais ce texte que nous allons lire ce matin pour le dimanche de Pentecôte est une exhortation qui, si elle est suivie, nous donne la force, nous donne la capacité d'accomplir ou de mettre en œuvre l'obéissance qui nous est demandée dans les versets suivants. Éphésiens 5, versets 15 à 21. Non, pardon, c'est 18 à 21. Enfin, on peut commencer avec le 15. Hein. Trois versets de plus, ça fait de mal à personne. Merci. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, c'est ma traduction ici, hein, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides ou inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et puis après, ce fameux texte sur l'obéissance dans la société, dans le couple et dans la famille. Le titre de notre prédication de ce matin, vous l'avez deviné, « Soyez remplis de l'Esprit ». Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème qui correspond, la plénitude de l'Esprit, secret de la marche chrétienne. La plénitude de l'Esprit, c'est le secret de la marche chrétienne. Pour vivre la marche chrétienne à laquelle nous avons été appelés et à laquelle nous nous sommes consacrés, nous avons besoin de l'Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit Saint que Dieu a répandu sur l'Église au jour de la Pentecôte. Car Jésus a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre moi-même, le Consolateur, celui qui est le constructeur de l'Église, celui qui est le conducteur de l'Église et celui qui est le Consolateur de l'Église. » En effet, l'Esprit qui nous a été donné et qui nous a scellés au jour où nous avons cru, nous aidera à maintenir le cap, à conserver l'élan initial et à marcher avec joie, avec force et avec courage dans le chemin que Dieu a préparé pour nous. Ainsi, sans l'Esprit qui illumine notre intelligence spirituelle, qui nous dirige dans la vérité et qui motive et fortifie notre volonté, nous serions laissés à nous-mêmes, sans ressources aucune devant les défis de la foi, sans lumière dans la nuit de ce monde et sans protection face aux multiples dangers qui nous entourent. D'où l'importance et la pertinence de l'exhortation de l'Écriture, « Soyez remplis de l'Esprit ». D'ailleurs, quel chrétien authentique ne voudrait pas être plein d'Esprit Saint, plein de joie, plein de force, plein de grâce et de sagesse et plein d'amour ? Quel chrétien ne voudrait pas marcher fidèlement, lutter courageusement, souffrir patiemment et témoigner joyeusement? Quel chrétien ne voudrait pas expérimenter la victoire, réaliser des exploits et porter un ou deux petits fruits? Et porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Ainsi, pour le chrétien désireux de plaire à son maître, soucieux de combattre selon l'Esprit et ambitieux pour la gloire de son Dieu, pour ce chrétien-là, Il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus urgent que d'être constamment rempli de l'Esprit et revêtu de sa puissance. Car alors, et alors seulement, il sera un chrétien vivant, un témoin fidèle, un frère, patient, un mari, aimant, une épouse, je vous laisse mettre l'adjectif, hein, les dames. Pardon? Une épouse?
Soumise.
Waouh! Mais, je suis d'accord avec vous, mais on verra prochainement, par la grâce de Dieu, ce que veut dire soumise. Parce qu'alors, miséricorde insondable, hein, je ne suis pas féministe du tout, mais pas du tout. La Bible non plus d'ailleurs. Mais quand la Bible parle de la position de la femme par rapport au mari, je vous dis, je préférerais être une femme. Bien. Là-dessus, passons dessous. Non, nous revenons à nos moutons. Un mari aimant, une épouse aidant son mari, un collègue apprécié, un chef respecté, et que sais-je encore. Bien sûr, tout ce que je viens d'énumérer s'adresse aussi à nos sœurs. Être rempli de l'Esprit, voilà le secret d'une vie chrétienne joyeuse et fraternelle. Puissions-nous tous aspirer à une telle vie de plénitude, une vie bien remplie, une vie bénie par le Seigneur. Mais comment découvrir ce secret et comment le réaliser dans notre vie de tous les jours? Permettez-moi d'abord quelques explications. Ce ne sera pas trop ardu, mais c'est un retour à la grammaire scolaire ou française. Un tout petit retour, parce que c'est nécessaire. Ce sera notre premier point, explication. D'abord, l'exhortation est à l'impératif présent. Cela signifie que nous sommes invités à être constamment remplis de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas un remplissage instantané et définitif, une fois pour toutes, mais l'utilisation du présent ici implique que nous devons toujours à nouveau être remplis de l'Esprit, telle une cruche qui se vide et que l'on remplit encore et toujours. Ensuite, l'exhortation est à l'impératif pluriel. Cela signifie que nous sommes tous concernés, et pas seulement une catégorie particulière de chrétiens qui revendiquent pour eux l'exclusivité d'une plénitude spéciale inaccessible aux autres. D'ailleurs, chaque fois que quelqu'un me dit « Moi, je fais partie du plein évangile », alors les autres, ils ont un évangile vide ou quoi ? S'il vous plaît, un peu de respect pour les autres. Bien. Ceux qui revendiquent pour eux l'exclusivité d'une plénitude spéciale, inaccessible aux autres. Pas du tout. Car l'Esprit de Dieu est donné à tous ceux qui veulent obéir au Seigneur et qui sont prêts à le servir sans retour, sans détour. L'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus est donné avec abondance à tous ceux qui le demandent avec foi, sans douter, qui le recherchent avec ardeur, sans paresse, qui frappent à la porte avec insistance et sans relâche, comme la veuve qui intercédait auprès du juge unique. En un mot, frères et sœurs, la grâce de l'Esprit, la sagesse de l'Esprit et la puissance de l'Esprit est pour tous les enfants de Dieu, nés de l'Esprit, animés par l'Esprit, et cela sans exception et sans distinction d'aucune sorte. Si vous me trouvez dans la Bible, ne serait-ce qu'une demi-phrase qui dit qu'il y a des chrétiens de première classe, de deuxième classe et de troisième classe, je suis prêt à réviser mon jugement. Enfin, le l'exhortation est un impératif passif. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous remplir par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas disposer de l'Esprit à notre guise, ni le manipuler à notre gré. En effet, nous ne possédons pas l'Esprit comme on possédait autrefois un esclave avec le droit de vie et de mort sur lui. Quand je lis dans certains livres qu'on trouve dans les bibliothèques chrétiennes aujourd'hui, « Bonjour Saint-Esprit, aujourd'hui on a un grand programme, et puis le soir, merci Saint-Esprit, t'as bien travaillé, bonne nuit. » Mais je l'ai lu, noir sur blanc. Enfin, pas moi, ma femme. Mais au contraire, c'est l'Esprit qui prend possession de nous, qui veut nous façonner, comme on l'a chanté, nous transformer et nous rendre semblables à l'image de Jésus, le Fils de Dieu. Par conséquent, c'est dans une attitude conforme à la foi et dans un esprit d'humilité, de simplicité, que nous nous approchons de la source divine. Et là, dans la présence ineffable du Dieu trois fois saint, c'est le Seigneur lui-même qui nous bénira et nous remplira de son esprit. Une mesure, deux mesures, trois mesures, jusqu'à ce que ça... Amen. Jusqu'à ce que ça déborde, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde encore. Et ça peut continuer de déborder jusqu'à la fin. Il y a assez de place sur la terre. Ainsi l'Écriture nous exhorte vivement à nous laisser remplir toujours à nouveau de l'Esprit Saint qui veut produire en nous et manifester par nous le fruit doux et paisible de la nature divine, c'est-à-dire de notre nouvelle nature. C'est à l'impératif présent, il faut toujours être rempli. C'est à l'impératif pluriel, tous les chrétiens sont à la même enseigne et nous sommes tous concernés. Et troisièmement, c'est l'impératif passif, nous ne pouvons pas nous remplir nous-mêmes. Heureusement, miséricorde insondable, heureusement, quand j'étais en Afrique, il y a des pasteurs africains qui sont venus et qui ont eu le courage de me dire par rapport à une sœur missionnaire, à une sœur blanche, « Oh, monsieur Joseph, parce qu'ils n'osent pas dire Joseph, hein. Même si je leur dis mille fois, dis-moi tu, moi je ne suis pas ton chef, je ne suis rien du tout. » Non, toujours, « monsieur Joseph, parce que je suis un peu large, je dois être le chef, mais je ne suis pas le chef, je suis chef de rien du tout. » Celle-là, ils ont osé me dire, hein, je peux vous... parce que c'était assez grave. Elle croit qu'elle a le magasin du Saint-Esprit. Ils ont dit ça d'une telle manière que n'importe qui peut comprendre. Bon. Ceci nous conduit à notre deuxième point, exécution ou opération. Le Saint-Esprit nous a été donné et nous sommes exhortés à être remplis de lui, saisis par lui, soumis à lui, afin qu'il puisse exercer son ministère et exécuter en nous son œuvre de sanctification ou de transformation, et opérer, écoutez bien, je souligne, avec notre concours, le miracle extraordinaire de la recréation. Je n'ai pas dit récréation. Quand j'étais à l'école, j'aimais surtout la récréation. Il paraît que, enfin, comment on dit ceux qui sont tout au fond de la classe? Non. Bon. Le miracle extraordinaire de la recréation, afin que nous devenions aptes à produire et à porter le merveilleux et délicieux fruit de l'Esprit. Je parle du fruit de l'Esprit qui est amour, joie, paix, patience, etc. Galates 5, 22. Frères et sœurs, portons-nous de tels fruits? Ceux qui nous entourent le remarquent-ils? Ceux qui nous entourent de plus près ou de moins près peuvent-ils en goûter de ces fruits? Peuvent-ils s'en rassasier? Ma femme peut-elle dire, mon mari, il est comme ceci, comme cela? Il fait tout ce qu'il peut pour obéir à l'exhortation qui le concerne. Marie, dépêchez-vous d'assommer votre épouse avec du travail, avec de l'esclavage, mettez-la sous pression. Pardon ? Ah, Marie, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église. Je vous dis, frères et sœurs, quand j'ai commencé de comprendre ce que, j'ai bien dit commencer de comprendre ce que cela veut dire, ça m'arrive souvent, même très souvent, de dire au Seigneur, Seigneur, que puis-je faire? J'ai tellement besoin de toi. Aide-moi à aimer mon épouse comme je dois l'aimer. Au début du mariage, je voulais la changer. Je dis, ah, mais c'est pas croyable! Alors, avec vos idées, vous, madame, elle voulait me changer un petit peu aussi. Pas autant que moi. Mais aujourd'hui, vous savez ce que je viens de dire à une sœur? Je ne changerai pas pour rien au monde. Comme Dieu a donné à Adam la meilleure femme qu'il pouvait lui donner, Dieu m'a donné la meilleure femme que je pouvais recevoir. Enfin, Dieu m'a donné. J'ai aussi choisi. Sinon, je pourrais dire, comme Adam a dit au Seigneur, cette femme que tu m'as donnée là, celle-là. Frères et sœurs, portons-nous de tels fruits? Ceux qui nous entourent le remarquent-ils? Peuvent-ils en goûter et s'en rassasier? Si nous sommes un arbre enraciné dans le terreau de l'Écriture et abreuvé de l'Esprit, nous portons et nous porterons encore et toujours le fruit de l'Esprit. Ça coule de source. Mais si aucune variante, aucune sorte de la parfaite plénitude du fruit spirituel ne se manifeste dans notre vie, alors il serait temps de s'examiner, de s'éprouver pour savoir si nous sommes vraiment et réellement dans la foi. Selon qu'il est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé ou peut-être encore réprouvé. 1 Corinthiens 13. Je voudrais préciser, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Et même s'il voulait s'efforcer d'en produire ou faire semblant d'en porter, il ne le pourrait pas car il en est tout à fait incapable. De plus, je voudrais à ce propos vous faire remarquer que les dons peuvent être contrefaits, tandis que le fruit, jamais. C'est pourquoi Jésus affirme, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et il précise, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 16 et suivant. D'ailleurs, si le diable ne peut professer la vérité, ni manifester l'amour, ni aucun autre aspect du fruit divin, ses fils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés de l'esprit, ne le pourront pas non plus. Par conséquent, et à plus forte raison, portons-nous au moins en partie le fruit de l'Esprit, alors nous savons avec certitude que Christ est en nous et que nous sommes dans la foi. Y a-t-il un tout petit peu d'amour dans notre vie? Je ne veux pas dire que c'est la réalité, mais je parle du minimum. Y a-t-il au minimum un tout petit peu d'amour, un tout petit peu de joie, un tout petit peu de patience? Je parle un petit peu, pas de la quantité, je parle de la qualité. Y a-t-il un peu de cette qualité de l'amour? Y a-t-il un peu de cette qualité de la joie que donne l'Esprit, que produit l'Esprit? Y a-t-il un peu de qualité de cette paix de cette tempérance, de cette etc., etc., que donne l'Esprit. Y a-t-il un peu de toutes ces choses? Alors vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Car l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Par la parole, par rapport à ce que nous faisons. Puisque les autres ne le peuvent pas, si nous aimons les frères, nous sommes nés de Dieu, dit l'apôtre Jean. Car quiconque n'aime pas les frères n'est pas né de Dieu, et l'amour de Dieu n'est pas en lui. J'allais dire, c'est presque mathématique, hein, mais c'est logique. Et c'est ça qui, pendant des années, me manquait, jusqu'au jour où le Seigneur lui-même m'a ouvert les yeux, parce que je me disais, mais je ne suis pas chrétien, je ne suis plus chrétien, je suis chrétien, je ne suis plus chrétien. Jusqu'au jour où j'ai compris un tout petit peu. Mais si tu aimes ton épouse, si tu aimes tes frères, tes sœurs, dans l'amour de Dieu, mais tu es chrétien. N'allez pas chercher de midi à 14 heures. Si vous n'avez pas tous les dons, si vous n'avez pas le don de parler le langage des anges, si vous n'avez pas le don de faire des miracles, si vous n'avez pas le don de sonder toutes les prophéties, si vous n'avez pas le don de connaître tous les mystères de Dieu, qu'est-ce que ça peut faire? Ah, puissiez-vous les avoir tous? Et moi, rien du tout, qu'est-ce que ça peut me faire? Ce que je demande au Seigneur, à part les dons aussi, c'est qu'il me donne la grâce de porter un tout petit peu, toujours plus, toujours davantage, que le Père m'émonde et que je porte toujours plus de fruits à la gloire de Dieu mon Père. Dans toute simplicité, en toute humilité, en toute honnêteté. Et vous savez, le Seigneur, quand il voit que le petit Joseph, ah, Joseph, tu te lances pas des fleurs, tu te roules dans les plates-bandes. Vous savez ce qu'il fait? Le jardinier vient avec la faucheuse à fil, là, la petite, vous comprenez, hein? Il fauche tout, il dit, attends, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Et le Seigneur a raison. Il me tient dans la marmite, il met le couvercle, et quand c'est bien cuit, il enlève le couvercle. Tu es à point maintenant, tu peux y aller. Tu es prêt pour faire mon œuvre. Tu es prêt pour travailler dans mon service. Parce que j'ai pas besoin de quelqu'un qui a les mains pleines, le cœur vide. J'ai besoin de quelqu'un qui a les mains vides et le cœur plein. Aspirons donc à la plénitude de l'Esprit, car alors, et alors seulement, notre récompense sera grande dans les cieux. C'est pourquoi exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Soyons remplis de l'Esprit. En effet, en disant « soyez remplis de l'Esprit », Paul veut nous rendre attentifs au fait que nous sommes toujours sous l'influence de ce qui nous remplit, soit de l'alcool qui nous a servi aux passions charnelles, soit de tout autre péché, toute autre passion, ou de tout autre lien qui a servi notre chair au diable, soit alors de l'Esprit qui nous a servi à Dieu et à sa parole. Et ici, je voudrais vous faire remarquer qu'il ne s'agit pas de la quantité de Saint-Esprit que nous pourrions emmagasiner, mais de la qualité de notre soumission à Dieu et à sa parole que produit en nous l'Esprit. Si donc nous ne voulons pas être esclaves du péché, ni de la chair, mais esclaves de Dieu, et par là même réaliser et expérimenter l'immense bienfait de la glorieuse liberté des enfants de Dieu, alors recevons avec douceur, acceptons avec empressement cette exhortation qui, si elle est suivie, nous rendra libres et forts. Et le modèle, c'est Jésus. Il était plein du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et vous avez votre Bible, et dans cette Bible, dans les quatre évangiles et même dans les épîtres, vous pouvez voir, lire, voir, entendre, comprendre comment Jésus a marché comme un homme plein d'esprit, libre et fort. Extraordinaire. Oui, frères et sœurs, soyons remplis de l'Esprit. Quelqu'un dira, j'en reconnais la nécessité et j'en éprouve le besoin, mais que dois-je faire pour être remplis de l'Esprit, ce sera notre troisième et dernier point. Condition, explication, application, opération et maintenant condition. À quelles conditions pouvons-nous être remplis de l'Esprit? Trois. Première condition, être relié à la source. Si nous voulons que l'Esprit déverse en nous ces torrents d'eau vive, il est évident que nous devons être reliés à la source. Mais où est la source? Et comment reçoit-on ces nombreuses bénédictions? La source, c'est Dieu lui-même et sa sainte parole. Et pour recevoir de son Esprit, il est indispensable que nous restions en relation avec lui et que nous vivions en étroite communion avec lui et avec sa parole, puisque c'est dans sa parole que nous le rencontrons et que c'est dans sa parole qu'il se révèle à nous. En effet, si le sarment est détaché du cep, il sèche et il meurt. Mais s'il demeure attaché au cep, il est nourri par lui, abreuvé par lui. Il croît, du verbe croître, et porte beaucoup de fruits. Ainsi donc, c'est dans la relation avec Dieu, dans la prière persévérante et dans la communion constante avec lui, sans négliger la lecture régulière de sa parole et sans mépriser, comme on l'a aussi entendu ce matin, la communion fraternelle, que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors seulement le Saint-Esprit nous communique sa grâce, sa paix, son amour, sa force, sa vie, sa patience, etc., etc. Deuxième condition, être abreuvé de la source. Pour être rempli de l'Esprit, non seulement il faut être relié à la source, mais il faut encore être abreuvé par elle. Si toutes vos lampes sont reliées au réseau, mais qu'il n'y a pas d'électricité, ça sert à quoi? À rien. Il faut être abreuvé par elle. Et pour cela, il faut aller à la source et puiser de son eau. Car la source divine, source féconde et intarissable, ne jaillit pas spontanément, c'est-à-dire automatiquement. En effet, la source des eaux vives est toujours là. Toujours à notre portée, est toujours prête à donner de son eau, mais elle ne se livre pas sans condition. Il faut demander, il faut prendre, il faut puiser, il faut boire, 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 et boire encore. Et alors seulement, elle étanchera la soif de tous ceux qui viennent à elle dans le respect de sa sainteté et de son autorité. Et troisième condition, être attiré par la source. Relié à la source, puiser de cette source, boire de cette source, et puis attiré de cette source, par cette source. Pour être rempli, il faut être relié. Pour recevoir, il faut puiser. Et enfin, pour courir à la source, comme les femmes africaines couraient au puits, pour désirer de son eau, il faut être attiré par elle. Il faut avoir soif de son eau rafraîchissante et bienfaisante. Il faut avoir soif de son eau encourageante et réconfortante. Il faut avoir soif de sa parole. Il faut avoir faim de sa grâce, de son pardon, de sa paix, de sa force, et que sais-je encore. Et Jésus n'a-t-il pas dit « Malheur à tous ceux qui ont faim et soif, car ils ne trouveront rien, c'est le désert ». Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais pour avoir soif de l'Esprit de Dieu, il faut être sevré de l'Esprit du monde. Car la soif de Dieu et la soif de la vanité de ce monde sont deux soifs incompatibles aux yeux du Seigneur. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, il en est ainsi, nous dit Paul dans l'Épître aux Galates, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, mais ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est que vous soyez remplis de l'Esprit. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez, que vous marchiez dans la sanctification. Pourquoi ? Afin que nous marchions selon l'Esprit et non selon la chair. Car il y a une opposition radicale entre le mode de vie dans la chair et le mode de vie dans l'Esprit. Ces deux modes de vie ne peuvent jamais ni s'accommoder, ni s'accorder entre eux. C'est une impossibilité absolue. En effet, ou bien nous marchons selon la chair et nous mourrons, ou bien nous marchons selon l'esprit et nous vivrons. Car le premier mode de vie est païen, tandis que le second est chrétien. Et concilier les deux est voué à l'échec, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Car nul, a dit le Seigneur, ne peut servir deux maîtres à la fois. Nous arrivons au bout. Merci de votre patience. Maintenant, souvenons-nous de ceci. Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne vivons pas selon la chair, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais selon l'Esprit. Cependant, veillons et prions, afin de surmonter les tentations qui font la guerre à l'âme. Et si nous avons péché, repentons-nous immédiatement, afin de ne pas laisser l'avantage au diable. Ainsi, toujours remplis de l'Esprit, toujours conduits et fortifiés par l'Esprit, nous ferons mourir les actions du corps, ce qui dans nos membres terrestres, les péchés de toutes sortes, les passions de toute espèce, et par la puissance de Dieu qui agit en nous par sa parole, nous triompherons du mal et nous vaincrons les ruses de l'ennemi. Car Jésus nous a appelés à vivre dans la joie et dans l'abondance de la grâce et de la paix, dans la souffrance parfois, mais dans l'espérance toujours. Selon qu'il est dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, pas des petits ruisseaux, pas des petits filets d'eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, jailliront de son sein, jusque dans la vie éternelle, comme dit l'Écriture. Et d'ailleurs, Jérémie nous le dit, les ruisseaux de Dieu, sont toujours à sec. Les ruisseaux de Dieu sont toujours pleins d'eau. Et un ruisseau, deux ruisseaux, trois ruisseaux, 10 ruisseaux, 1000 ruisseaux, ça fait quoi? Ça fait des fleuves, des rivières. Les rivières se jettent dans les fleuves, et les fleuves vont où? Dans l'océan. Finalement, quand nous arrivons dans l'océan de l'amour de Dieu, on ne se noie pas, mais on est porté. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Quand l'amour de Dieu nous porte, alors comme le frère a lu le psaume 4, sur les genoux de ma mère, comme un enfant sevré sur les genoux de sa mère, je m'endors. Je me couche et je m'endors en paix. Ou bien ça tourne encore toute la nuit. Frères et sœurs, notre vie chrétienne ferait-elle mentir les affirmations divines en manifestant une sécheresse désolante et affligeante? Si notre cœur était sec, plus sec qu'une rivière sans eau, si notre terre était plus aride que le plus aride des déserts, si notre vie se desséchait comme se dessèche un arbre déraciné par la tempête, alors venons. Revenons tout à nouveau à la source qui jaillit de Golgotha. Approchons-nous, puisons et buvons à l'entrée de son eau qui vivifie et régénère. Oui, étanchons notre soif aux eaux pures de la vie d'en haut. Désaltérons notre âme et calmons la faim de notre cœur qui crie famine. Alors, ces fleuves d'eau vive, comme dit l'Écriture, jailliront réellement de notre sein. Nous vivrons dans une communion fraternelle que Dieu ne peut pas faire autrement que de bénir. Nous vivrons une vie personnelle que Dieu ne peut pas faire autrement que de remplir. Encore et encore. Nous vivrons dans la paix qui surpasse toute intelligence. Nous vivrons dans la société, avec notre voisin, nos amis, nos contemporains, avec un témoignage vivant, ni forcé, ni imposé, tout naturel, comme un enfant. parle avec les autres. Soyez remplis de l'Esprit. Amen. Je devrais dire, soyons tous remplis de l'Esprit. Amen.